queer radiophonique. Et ça donne ça.
On se retrouve entre lesbiennes.
C'est un peu mon bateau.
Un endroit un peu sacré.
Qui m'a permis aussi, moi, de rencontrer des personnes qui vivaient des problématiques similaires.
Les mecs venaient avec une paire de talons.
Il y a du kitsch.
Il y a cette dimension-là, comme ça, un peu agressif.
Moi, je suis super heureuse d'être lesbienne.
Lesbienne.
On passe une heure entre personnes LGBTI+.
Le lobby.
Un mardi par mois, en direct, de 20h à 21h sur Radio Campus Paris. Et quand vous voulez, sur toutes vos applications de podcast.
Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Radio Campus Paris, je suis Félix, il est 19h et c'est l'heure de la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Demain, ça fera 10 ans. 10 ans que la France a connu le pire attentat terroriste de son histoire. 10 ans, et pourtant, nous nous rappelons tous de l'endroit où nous étions ce soir-là. 10 ans après, personne n'a oublié, et le 13 novembre 2025, nous ne ferons qu'un dans la remémoration de cet événement. Et c'est de cette mémoire dont je veux parler. Car en janvier prochain, ce sera le 10e anniversaire du lancement Programme 13 novembre. Vaste projet de recherche dont les objectifs principaux sont l'étude du stress post-traumatique et la construction et l'évolution de la mémoire. C'est un programme unique au monde, par sa dimension multidisciplinaire et pluri-institutionnelle jamais vu auparavant. Par son ampleur et sa durée, sur 12 ans, c'est plusieurs milliers de personnes interrogées, dont 1000 d'entre elles auront réalisé des entretiens filmés et répétés à plusieurs années d'intervalle. Et par son aspect engagé, en voulant faire avancer la prise en charge des victimes et en participant au travail de la conservation de la mémoire. Le programme devrait s'achever en 2028, mais il en ressort déjà de nombreux résultats, comme l'identification de mots et phrases propres aux personnes victimes de stress post-traumatique, ou encore la capacité du cerveau à surmonter de tels événements, pouvant mener à de nouvelles pistes thérapeutiques. Un chantier titanesque, mais crucial, les victimes et les proches ont besoin d'une voix, besoin de solutions, et les générations suivantes, elles, ne doivent jamais oublier ce qu'il s'est passé. Au programme ce soir, des sujets concoctés rien que pour vous par nos bénévoles. Juste après ce sommaire, le premier zoom de la soirée avec le festival Livre en tête que Lula Mathieu vient nous présenter en répondant aux questions de Rania. Avec Tom à 19h20, nous parlerons du match France-Ukraine qui se tiendra demain, toujours jour de commémoration des attentats du 13 novembre. Puis nous plongerons dans l'univers de l'artiste Elinoa au travers de son dernier album Mejiro, sorti le 19 septembre. C'est Farah qui mènera l'interview. À 19h40, dans sa chronique libre, Arthur nous révèle comment il a découvert qu'il était parisien. Et enfin, Abdel nous délivrera les derniers détails croustillants de la relation intime entre Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin. Il est 19h, restons ensemble jusqu'à 20h pour cette matinale sur radiocampusparis.org ou le 93.9 FM.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Du 19 au 22 novembre se déroule la 16e édition du festival de lecture à haute voix de Livre en tête, une organisation conjointe entre la maison de production Les Livreurs et la faculté de lettres de Sorbonne Université. C'est le premier zoom de la soirée, nous recevons Lola Mathieu pour en parler. Bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est à toi, Rania.
Bonsoir, bonsoir Lola, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors tu es interprète, tu es ici pour parler de la 16e édition du festival de lecture sonore Livre en tête qui se déroule du 18 au 22 novembre prochain. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter plus en détail ?
Alors je m'appelle Lula Mathieu, depuis l'année dernière je suis interprète et lectrice chez Les Livreurs. J'ai intégré les livreurs avec la faculté Sorbonne Université et donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs festivals avec eux. Et aujourd'hui je me retrouve là pour présenter le festival, le 16e de cette année.
Justement, est-ce que tu pourrais nous présenter ce festival ?
Alors ce festival, il se déroule du 19 novembre au 22 novembre et c'est chaque soir, il y aura des soirées avec plusieurs lectures sur plusieurs thèmes avec des invités spéciaux dont Denis Lavant qui sera le président d'honneur de cette 16e édition.
Comment est né ce festival ? Dans quelle optique ?
Alors c'était dans l'optique de faire connaître une autre facette de la littérature pour un plus large public et aussi de choisir en fait des morceaux, de faire vivre ces morceaux par plusieurs voix. Voilà. Okay.
Du coup, c'est la 16e édition cette année. Est-ce qu'il y a un thème mis à l'honneur peut-être ou un genre littéraire précis ?
Alors, il n'y a pas forcément de thème. Il y a plusieurs thèmes par soir, par contre. Il y a, par exemple, les plaidoiries imaginaires. Il y a aussi des textes sur les gourmandises, etc. Donc, chaque soir, son thème.
Selon toi, en quoi cette nouvelle édition, elle se change ou se différencie potentiellement des premières éditions, notamment celles en 2009, les toutes premières ?
Alors moi, en 2009, j'avais certainement pas l'âge pour le faire, mais je pense que ça a beaucoup évolué avec notamment de nouveaux financements, avec des plus gros projets, avec des plus gros invités. Cette année, on a quand même la chance d'avoir Denis Lavant et ce n'est pas rien, c'est quand même un grand acteur qui va pouvoir apporter beaucoup, surtout aux étudiants de la Sorbonne Sonore. Qui va faire une masterclass le samedi après-midi notamment et qui va pouvoir donner des conseils sur la lecture à voix haute en particulier. Et je pense que ça, c'est vraiment un gros changement, ces invités d'honneur. Et je pense que ça peut beaucoup nous apporter à moi et à mes camarades.
On note cette qualité d'invité d'honneur. Toi particulièrement, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ce festival en tant qu'interprète et lectrice ?
Alors, ce qui m'a poussée à le faire, c'est que de base, je suis très timide et j'ai fait du théâtre pendant longtemps et j'étais un peu lassée du théâtre normal. Et j'ai vu que ma faculté proposait cette option de lecture à voix haute, donc je me suis dit que j'allais essayer et ça m'a beaucoup plu. En fait, on redécouvre totalement la lecture et ça permet d'être totalement à l'aise à l'oral et je pense que c'est important parce que quand on va en cours, il n'y a pas forcément cet aspect oral, c'est plus de la théorie, on est assis à table, etc. Et là, c'est vraiment l'apprentissage de l'oral qui m'a vraiment plu et je pense que c'est important pour tout le monde.
Super. Du coup, le festival, il est ouvert aux amateurs. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des prérequis, on va dire, en lecture.
Alors, il y a des cours pour participer à ces festivals tout au long de l'année pour évoluer, etc. Et donc, on peut clairement venir en tant qu'amateur et ensuite se retrouver dans les festivals. C'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est ça qui est super. Moi, je ne pensais pas du tout faire des festivals un jour et au final, c'est possible. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Ouais, donc, ce festival, il permet vraiment d'ouvrir des portes et du coup... Le choix des lectures, il est plutôt libre ou c'est vraiment le comité, on va dire, qui choisit ce qui est...
Alors, ce qui est au long de l'année, on peut choisir nous-mêmes nos textes, mais souvent pour les festivals, comme il y a des thèmes par soir, c'est plutôt imposé. Après, c'est libre choix. Si ça ne nous plaît pas, on peut totalement le dire et choisir quelque chose qui nous plaît en fonction du thème.
Et donc, par exemple, toi, tu as choisi quoi pour cette édition ?
Alors, pour cette édition, je n'ai pas encore eu le texte, mais je vais lire pour les plaidoiries imaginaires.
Ok.
Et je ferai, je ne sais pas encore ce que je ferai. Voilà.
Et du coup, j'ai remarqué sur les affiches de ce festival qu'il y a une certaine inspiration du film Dead Poets Society.
Oui.
Qu'est-ce que tu peux en dire qu'est-ce que tu peux dire sur ce lien ?
Alors, j'avoue que moi, je ne suis pas dans la communication du festival. Je sais qu'il y a plusieurs services civiques qui s'en occupent, donc je pense que ce serait plus intéressant de leur poser la question à eux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une direction artistique derrière toutes les affiches, etc. Et vraiment, ils cherchent toujours à prendre un thème précis. Et je pense que... Enfin voilà, moi, je n'ai pas participé à ça, donc je ne pourrais pas clairement y répondre, mais voilà.
Quel autre événement vous faites chez les livreurs en tête ?
Alors, chez les livreurs en tête, on fait aussi des contrats dans des classes pour la lecture à voix haute. Donc, souvent dans des classes en primaire, en banlieue parisienne, par exemple. On fait aussi des festivals de solo théâtre. Donc là, c'est le niveau au-dessus de la lecture à voix haute. C'est interpréter une pièce pendant une heure avec un seul interprète qui interprète tous les personnages, sans décor, sans musique, juste un pupitre et une personne, un interprète. Et donc ça, c'est un festival qui s'est par exemple déroulé cet été en Bourgogne, en août, auquel j'ai pu aussi participer.
Et c'est quoi que tu as aimé du coup dans cette expérience ?
Dans cette expérience, ce qui m'a plu, c'est vraiment c'est quelque chose de totalement nouveau que je ne connaissais pas, que les livreurs ont inventé. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'on peut vraiment jouer de tout, jouer tout le monde. Il n'y a pas de prérequis, c'est vraiment sans préjugés. On peut jouer aussi bien des hommes que des femmes. C'est vraiment en fait l'ouverture d'esprit. Et c'est surtout le côté imaginaire qui me plaît, parce que j'ai été voir beaucoup de mes camarades et aussi des livreurs qui sont des professionnels de la lecture. Et c'est assez fascinant de voir qu'une seule personne peut inventer un monde autour de soi avec plusieurs personnages.
Donc on peut dire qu'avec cette expérience, ta timidité forcément,
elle a diminué. Ah oui, ça va beaucoup mieux.
Et du coup, cet événement, comme tu le disais, il a vocation un peu à inclure tous les étudiants.
Oui, c'est ça.
Il a une forme d'inclusivité.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, le festival est ouvert à tout le monde. Et les étudiants de la Sorbonne ont des places gratuites pour accéder au festival, pour aller voir. Donc c'est aussi une façon de regarder si ça nous plaît et puis l'année prochaine, essayer, pourquoi pas.
Est-ce que vous avez d'autres mesures quant à l'inclusion de personnes ou
Comme ça, je ne sais pas. Après, je sais que c'est un cours qui peut être pris à la fac en option et donc avec lequel on peut avoir une note, par exemple. Et ça, c'est plutôt bien pour remonter les moyennes aussi. Et donc, il y a tout type de personnes qui peuvent venir. Il y a aussi des personnes extérieures à la faculté.
Oui, parce que je me dis que là, tout de suite, en entendant un festival de lecture sonore, en entendant un sujet qui touche à l'art ou à la littérature, ça peut peut-être poser des barrières ou des limites. Certaines personnes peuvent ne pas se sentir légitimes, mais du coup, justement, cet accès libre, sans inscription, ça permet de pallier à ça.
Exactement.
Du coup, ce festival, il célèbre donc la lecture à voix haute depuis 2009. Qu'est-ce que ça a changé pour toi toutes ces années ?
Je pense que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral déjà. J'ai pas peur de parler devant du monde. Et je pense que ça redonne aussi une certaine confiance en soi, de voir que les gens nous écoutent pendant certaines fois une heure. Je pense que ça m'a permis de prendre confiance en moi et de voir aussi que la parole peut avoir un impact. Voilà.
Et du coup, pour ce genre de présentation, comment tu te prépares, toi ? Quels sont tes tips ?
Je pense que je ne suis pas une personne qui se prépare spécialement, mais j'essaye de... Je sais qu'avant un spectacle, je préfère, par exemple, rester dans ma bulle. Et après, une fois que les lumières sont allumées, je lance le moteur et ça y est.
Et justement, en parlant de présentation, est-ce que vous avez des retours du public sur ces performances ?
Alors oui, en fait, avec ce festival, la chance, c'est qu'il y a un public plutôt restreint. Et donc, on est vraiment très proche du public. Et à la fin, on peut avoir même un échange avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous féliciter de vive voix. Et ça fait vraiment plaisir. Ça montre que le travail a payé.
Est-ce que vous pensez que ce genre de lecture à voix haute, il peut contribuer à faire découvrir ou à réhabiliter la littérature auprès d'un large public et d'un plus grand nombre de personnes, finalement ?
Oui, je pense que oui, parce que d'abord, c'est un festival vraiment qui est ouvert, accessible à tout le monde. Il y a des réductions aussi pour les étudiants, c'est gratuit pour les étudiants de la Sorbonne. Et je pense que ça permet aussi de voir la littérature autrement, plutôt que de lire un livre tout seul chez soi, d'aller à un festival, de rencontrer du monde, de rencontrer aussi des experts qui vont commenter ces textes. Je pense que c'est aussi important d'avoir ce point de vue-là. Quand on lit seul chez soi, on n'a pas forcément de point de vue extérieur d'experts de la littérature. Et je pense que c'est aussi ça, la force de ce festival, c'est d'avoir plein de points de vue et d'apprendre plein de choses sur un seul morceau de texte, en fait.
Pour un ou une jeune interprète qui voudrait justement s'engager dans ce type de lecture à voix haute, quel conseil tu pourrais donner ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. Pas se dire que c'est pour les gens qui sont à l'aise, que quand on est timide, on peut pas le faire. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et enfin, moi, je me vois quand j'étais petite, je n'osais même pas demander une baguette de pain à la boulangerie. Et maintenant, je peux parler devant des gens. Et je pense que c'est vraiment se dire que en fait, c'est possible pour tout le monde et il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de contrainte. Et en fait, il faut juste oser. Et je pense qu'une fois qu'on ose, on ne regrette pas.
Et du coup, oui, j'imagine que l'ambiance en soi du festival, elle est propice à ce genre d'évolution, on va dire,
oui,
personnelle.
Totalement.
C'est plutôt, j'imagine, une bonne ambiance.
C'est une super ambiance. On rencontre plein de gens différents, plein d'âges différents. Peut y avoir, je sais pas, des étudiants de 19 ans comme des personnes de 60 ans. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la force des livreurs et du cours, parce qu'on rencontre des gens, on parle à des gens à qui on n'aurait peut-être jamais parlé. Et l'ambiance, c'est un petit groupe restreint, donc on crée forcément des liens qui sont forts et on vit quelque chose que les autres ne vivent pas.
Et donc toutes ces représentations sont dans les campus de la Sorbonne ?
Alors les cours sont dans le campus de la Sorbonne, oui. Mais il y a certains stages qui sont proposés aussi par les livreurs qui se passent en Bourgogne. Et je pense qu'il y a aussi d'autres lieux. Et les festivals ne sont pas forcément qu'à la Sorbonne. Il y a aussi dans les hôtels littéraires et d'autres lieux comme ça.
Toi, quelle différence tu as remarquée entre lire un texte et l'interpréter ?
Alors, je pense que lire un texte, c'est simplement le... En fait, c'est une lecture à voix haute. Et je pense qu'interpréter, c'est vraiment comprendre le fond du texte et pouvoir le transmettre, ce fond du texte, à quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'émotions, il y a beaucoup plus de connaissances du texte. Et je pense que c'est ça, c'est transmettre ce que le texte ne dit pas clairement.
Oui, justement, interpréter les textes, c'est peut-être à la croisée d'autres disciplines, peut-être du théâtre,
oui,
ou de l'acting.
Exactement,
en fait.
Oui. Je pense que ça s'apparente pas mal au théâtre. Je pourrais pas dire que c'est la même chose, mais c'est deux univers très proches, oui.
Merci beaucoup. Vas-y.
Merci beaucoup, Lula, pour cette interview. Je pense que tu as su faire découvrir à nos auditeurs ce merveilleux festival.
Merci pour ta présence. Je rappelle que le festival Livre en tête se tient du 19 au 22 novembre à la Faculté de Lettres de la Sorbonne et autres lieux que vous pouvez retrouver sur leslivreurs.com. C'est le moment de la pause musicale avec Vivre sa vie de Galilée. Vous êtes sur Radio Campus Paris.
La fille pénible, tout ce que je voulais, c'était le monde. Parce que je suis...
C'était Vivre sa vie de Galatée. Il est 19h20. On poursuit avec Tom et sa chronique actu sur le match football France-Ukraine de demain.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio.
Bonsoir Félix, alors dans le cadre de ma chronique d'actualité, je souhaitais te parler un peu de l'équipe de France de football qui joue demain contre l'Ukraine. Oui, demain, le jour de la commémoration des 10 ans des attentats qui avaient touché Paris, faisant 130 morts et 400 blessés, notamment au Bataclan, dans plusieurs restaurants et brasseries du 11e arrondissement de Paris, plusieurs mois après l'attaque de Charlie Hebdo. L'État islamique avait aussi comme cible le Stade de France à l'époque. Je me rappelle avoir entendu les détonations devant la retransmission sur TF1 sur la télévision du salon de mes grands-parents. J'avais alors 12 ans et j'étais très content parce que les Bleus avaient battu l'Allemagne championne du monde 2-0. Ce résultat est devenu très rapidement insignifiant, dérisoire et ridicule. Immédiatement après le match, mon grand-père avait mis une autre chaîne et j'avais alors découvert les bandeaux terrifiants « Attentats terroristes à Paris ». 10 ans plus tard, la Fédération française de football et l'UEFA, l'Union des associations européennes de football, ont prévu toutes les deux d'organiser ce France-Ukraine, non pas au Stade de France, mais au Parc des Princes, l'habituel antre du champion d'Europe, le Paris Saint-Germain. Juste pour un petit point sportif, ce match est l'avant-dernier de la phase de groupe de qualification pour la future Coupe du Monde 2026, organisée par le trio Canada, États-Unis et Mexique. Celle-ci aura lieu en juin prochain. Pour faire simple, la France est première de son groupe. Celui-ci est composé donc de l'Ukraine, de l'Islande et de l'Azerbaïdjan. Il ne lui reste qu'à jouer face aux Ukrainiens demain soir et à Bakou dans quelques jours afin de valider son ticket, valider sa qualification. Malgré cet enjeu, le match se jouera donc dans un contexte bien particulier. Le monde entier, toi Félix, moi aussi, sommes marqués par les images du 13 novembre 2015. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, s'était exprimé en conférence de presse il y a peu et avait dit... Au fond de moi, si on avait pu éviter de jouer ce 13 novembre, ça aurait été bien. Kylian Mbappé, le capitaine, avait aussi dénoncé cette situation en parlant au nom de l'équipe. Tout le monde sait à quel point demain est une journée spéciale, pas dans le bon sens du terme. On voulait avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, qui ont pu être touchées, blessées, que ce soit mentalement ou physiquement. France Info avait rapporté les propos des dirigeants de l'UEFA quant au fait que le match ne serait pas décalé. Je cite... Par souci d'équité, France Info rapportait aussi que la date symbolique, l'adversaire ukrainien et le contexte international font qu'en cas de qualification pour le mondial, la France devra célébrer avec retenue. De plus, les forces de l'ordre seront particulièrement sollicitées toute la journée et même en avant-match. Voilà donc la situation de ce France-Ukraine. Nul doute qu'avant le match, de nombreuses commémorations auront lieu. C'est sûr qu'il sera bien difficile d'avoir l'esprit léger. Ce ne sera pas vraiment un match comme les autres.
Merci Tom pour ce point sport. 10 ans après, c'est l'heure du second zoom.
Le zoom dans la matinale de 19h.
Pour parler de son dernier album, Mejiro, sorti le 19 septembre dernier, la chanteuse et compositrice Elinoa est avec nous ce soir. Bonsoir Elinoa.
Bonsoir.
Merci d'être ici et c'est Farah qui la reçoit donc pour ce second zoom de la soirée.
Bonsoir. Alors, Elinoa, vous êtes vocaliste, compositrice, orchestratrice et directrice artistique. Alors, d'abord, en effet, bienvenue sur Radio Campus Paris. Et puis après, expliquez-nous un petit peu ces différents labels, notamment celui de vocaliste et d'orchestratrice qui me questionne.
Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on peut lire quand on arrive sur mon site internet. Alors, j'ai choisi le terme vocaliste plutôt que le terme chanteuse parce que je fais partie de cette génération de chanteuses de jazz. Alors moi, je fais principalement du jazz, mais qui va chercher un peu vers... qui se métisse, on va dire, avec d'autres esthétiques, mais qui utilise la voix non seulement comme vraiment une conteuse, enfin comme une chanteuse, comme on peut imaginer qu'on voit souvent, mais aussi de manière un peu plus libre, un peu plus instrumentale, on va dire, donc parfois du chant sans parole, parfois du chant improvisé. Enfin, j'aime bien explorer en fait tous ces timbres qui sont rendus possibles par la voix. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce terme-là et qui est un petit peu plus ouvert que le pur terme de chanteuse. Et orchestratrice, c'est parce que je suis donc effectivement compositrice. Donc au-delà de mon activité d'interprète, il y a aussi le côté écriture qui prend une grosse part de ma vie. Et notamment pour des grands ensembles, donc pour des orchestres en fait. Et je trouvais que le terme orchestratrice se prêtait bien à cette idée d'écrire pour des grandes formations.
Et aujourd'hui, ce soir, vous venez nous parler de Mejiro, votre 5e album qui est sorti le 19 septembre. Alors, Mejiro, ça signifie deux choses. Ça signifie le nom d'un oiseau qui est endémique au Japon et un quartier de Tokyo. Alors, on va commencer avec l'oiseau que vous mettez en parallèle avec la posture d'artiste dans une société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce parallèle que vous faites ?
Oui, j'aime bien dire que... Parce qu'il y a une chanson, en fait, dans l'album qui porte aussi sur un oiseau. Donc l'oiseau, c'est un peu le fil conducteur de l'album. Et notamment, cette chanson a été... Enfin, la mélodie a été construite à partir du chant de cet oiseau. Et je me suis demandé, dans les paroles de la chanson, qu'est-ce que l'oiseau aurait à nous dire s'il pouvait parler, s'il pouvait avoir des mots et pas seulement un chant. Et évidemment, ma réponse a été, évidemment, il nous dirait d'arrêter de faire n'importe quoi avec la planète. Et, parce que voilà, on n'est pas sans savoir que les oiseaux disparaissent à vitesse grand V depuis les années 50 et qu'on ne fait pas grand-chose pour empêcher cette disparition. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire entre cet oiseau qui chante, dont on trouve le chant très mélodieux et plaisant, mais dont on n'écoute pas, enfin dont on n'est pas vraiment conscience des conséquences de ce qu'on est en train de leur faire et ce qu'ils pourraient être en train de nous dire. Et parfois les artistes, j'ai fait un lien avec le débat sur la politisation ou non de l'art. Souvent, on aime bien ramener les artistes à leur rôle de troubadour, on va dire, enfin en tout cas le côté très distrayant de l'art, enfin voilà,
divertissant.
Ouais, divertissant, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. La musique, c'est du divertissement, on est juste là pour passer un bon moment, alors que en fait pour moi l'art, c'est quelque chose de très politique, et en fait souvent les artistes, ils sont aussi là pour porter des messages. Et d'ailleurs, le fait même qu'il y ait une place qui soit donnée à l'art en France, c'est aussi une volonté politique. Enfin, c'est une politique culturelle qui a été décidée par l'État français de se dire, voilà, on va mettre de l'argent dans la culture. Enfin, par exemple, je sais pas, le statut d'intermittent, par exemple.
Ouais, je pensais à ça.
Pour permettre aux artistes, c'est un choix politique. C'est pas comme ça dans tous les pays. Et du coup, c'est important de laisser les artistes avoir un discours aussi sur les choses qu'ils observent et la manière qu'ils ont d'en parler, quoi.
Et comme je le disais tout à l'heure, Meijiro, du coup, c'est aussi un quartier de Tokyo, un quartier que vous nommez foisonnant de possibilités. Moi, je viens d'arriver à Paris et je ressentais le parallèle entre qu'est-ce qu'on peut faire, on peut tout faire, qu'est-ce qu'il faut choisir ce soir, la panique, les possibles infinis, et en même temps, les mystères. Et lorsqu'on ressent quelque chose vraiment de l'ordre de la sensation dans le corps, et qu'on est comme vous avec toutes ces casquettes autour de la musique et qu'on est musicienne, comment on s'y prend pour, en tout cas dans le processus créatif, essayer de, à partir de son corps et de ses sensations, mettre quelque chose en musique? Comment vous y prenez sur cet album?
Alors ça, je pense que c'est vraiment au cœur de la démarche artistique, hein. Et je pense que chaque artiste a une façon, un processus différent pour transcender justement les émotions, les sensations, les discours qu'il a et puis mettre ça en son et essayer d'avoir cet effet-là justement sur les auditeurs. Mais particulièrement justement, si on prend l'exemple de ce morceau, enfin le morceau qui parle de cette sensation, donc c'est le premier morceau de l'album qui s'appelle Tokyo Tears et qui parle du fait qu'on arrive à Tokyo et il y a un peu ce choc de à la fois l'immensité de la ville et le fait qu'on soit ramené à notre petite condition humaine. Et pour moi, ça crée un genre de vertige, un genre de déséquilibre. Et notamment, par exemple, dans ce morceau, le motif mélodique, donc que ce soit la flûte au début du morceau ou bien dans le refrain, le chant, il y a un côté très, c'est dur d'utiliser des termes non musicaux, mais en tout cas, ouais, il y a un truc un peu qui perd pied et qui sort un peu de la tonalité d'origine et qui revient. Enfin, en tout cas, il y a un genre de balancement et de déséquilibre. Et tout le morceau, il est construit un peu sur ce jeu entre le fait d'être ancré et le fait d'être un peu sur le fil, quoi.
Et alors, pour revenir aussi au pourquoi de cet album, peut-être le rapport à ce territoire qu'est le Japon. Parce que j'ai l'impression que c'est un territoire que vous connaissez depuis un moment. Et aussi par rapport à son influence sur votre imaginaire. Parce que quand on lit des critiques sur vous, c'est à chaque fois artiste qu'on n'arrive pas à saisir, qui propose des univers à chaque fois inouïs, qu'on n'arrive pas à classer. C'est quand même quelque chose qui revient beaucoup quand on lit des articles sur vous. Donc, est-ce que ce Japon aurait participé à nourrir cet imaginaire?
Oui, en fait, moi, j'avais envie de travailler sur le Japon parce que... Enfin, c'est pas tellement le Japon en tant que tel, parce que... parce que je suis pas japonaise et que je veux pas forcément m'approprier cette culture. Et puis voilà, il y a pas spécialement d'instruments traditionnels dans le disque, je chante pas en japonais pour autant. Enfin, mais c'est plutôt la manière dont ce pays a nourri mon imaginaire depuis l'enfance. Et moi, et d'ailleurs pas que moi, enfin toute ma génération, je pense qu'on a tous été biberonnés aux films de Miyazaki. On a tous joué aux jeux vidéo qui sont issus de cette culture-là. Et je pense que en fait indirectement, il y a pas mal de références de cette culture-là qui ont un peu nourri nos parcours. Et je trouvais intéressant de poser un peu mon regard d'occidental sur cette culture-là. Et après, oui, il se trouve que j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, et notamment j'ai fait une tournée avec mon projet précédent au Japon. Et là aussi, c'est... cette confrontation entre l'image d'Épinal du Japon qu'on se fait et puis le Japon réel. Enfin, je trouve que ça ouvre un peu des questionnements qui sont intéressants. Et puis évidemment, toute la réflexion qui va avec, de mettre ça en regard avec l'écologie. Donc, parce que je parlais de Miyazaki tout à l'heure, mais lui, c'est vrai que c'est un peu son cœur de travail, quoi. C'est la relation entre la nature, l'homme, l'industrialisation, et puis un peu cette espèce d'éternel combat entre les deux. Et puis le côté, moi, française, de voyager jusqu'au Japon, qui est quelque chose que je pense d'ici peut-être quelques dizaines d'années, on pourra plus tellement faire. Mais du coup, de donner du sens à ce voyage et de pas seulement consommer le Japon comme on pourrait faire en tant que touriste, mais essayer vraiment de porter une réflexion, de créer un pont avec ce pays, d'y rester longtemps et voilà. Et du coup, c'est un peu le travail qui est sorti de cette rencontre, en fait. Réel et pas seulement imaginaire.
Et une des choses qui m'a questionnée aussi quand j'ai découvert votre travail, c'est tout ce questionnement sur la place qu'on occupe dans le monde. Enfin, là, vous parlez de regard, par exemple, d'occidental au Japon. Du coup, comment je me positionne quand moi, je fais ces kilomètres et que j'arrive au Japon et que je décide de faire un album je ne sais pas s'il lui rend hommage, est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, en quelque sorte, ouais.
Qui lui rend hommage. Comment elle a traversé, cet album et peut-être les autres aussi, c'est ce questionnement sur la place, que ce soit de l'artiste ou juste notre place dans ce territoire qu'est la Terre.
Oui, complètement. C'est vraiment un questionnement qui a traversé l'album. Donc déjà, il y a les choses que vous avez dites, mais il y a aussi... Il y a aussi pas mal de morceaux qui portent aussi sur la place qu'on a dans la relation à l'autre, dans la place, enfin un peu des choses assez intimes de comment on ressent notre place, et puis le côté plus politique de la place qu'on prend, des privilèges. Enfin, j'ai l'impression que on est aussi une génération qui est beaucoup traversée par ces questionnements qui fait qu'on est un peu obligé d'ouvrir un peu notre esprit au-delà de simplement notre vie, parce que l'avenir est tellement incertain et il y a tellement de questions qui viennent vraiment matériellement et concrètement influencer nos existences que on est obligé en fait de réfléchir à ça tout le temps. Et puis le fait d'être aussi un peu bombardé d'actualité tout le temps, de réflexion, moi j'écoute beaucoup de podcasts, enfin je pense que c'est aussi la question de la place, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent, qu'on doit questionner déjà à titre individuel et puis aussi collectivement. Et du coup, bien joué d'avoir décelé ça, parce que c'est vraiment un des questionnements qui traverse le plus cet album.
Et alors, pour mettre en son cette ambivalence, vous avez décidé de ne pas utiliser des instruments jazz, parce que du coup, vous venez de cette orientation musicale de base, cette culture-là. Du coup, on n'aura pas de batterie, pas de contrebasse, pas de saxo, mais on a même alto, mandoline, violoncelle, violon et flûte. Et pourquoi ce choix de se dire les instruments typiques du milieu jazz ne seront pas sur cet album?
C'est quand vous disiez tout à l'heure qu'on dit toujours que je suis inclassable ou quoi, mais c'est parce que je pense que ma quête artistique, c'est de toujours essayer de proposer un son ou une direction artistique qui est un peu nouvelle, un peu inouïe, enfin en tout cas qui n'a pas été fait ailleurs. Tout en bien sûr référençant des codes qui sont intelligibles pour tout le monde. Je fais pas de la musique contemporaine auquel on comprendrait rien. Enfin, j'adore la musique contemporaine, c'est pas la question, mais en tout cas, je pense que c'est un peu cette quête d'aller toujours trouver comment décaler l'attendu pour en faire quelque chose de différent. Et là, l'idée avec ce projet, c'était vraiment d'être... Enfin, donc le jazz, ouais, c'est ma culture. Et c'est aussi la culture de tous les instrumentistes avec lesquels j'ai travaillé sur cet album. Et donc, c'est, voilà, on a tous cette connaissance de l'improvisation, le jeu très rythmique, ce qu'on appelle les claves. Enfin, toute cette culture-là qui est, on va dire, reliée au jazz. Et en même temps, l'album, il sonne pas du tout comme un album de jazz parce que c'est... En fait, c'est ce que j'ai... J'ai appelé ça musique de chambre, un peu pour faire référence à tout ce courant de musique classique, jouée dans les salons, de manière acoustique. Donc voilà, l'effectif, ça fait vraiment référence à tout ça, parce que les trois cordes, la flûte, la mandoline. Moi, je trouvais qu'il y avait un côté, dans cette instrumentation, il y avait un côté un peu décroissant, justement. Enfin, il n'y a pas besoin d'électricité pour jouer cette musique. En fait, on peut juste... nous mettre quelque part, on peut jouer.
Okay.
Et puis... attends, c'était quoi le deuxième truc que je voulais dire?
Sinon, j'avais une autre question sur l'improvisation.
Ah oui, bah...
Bon, on peut
en plus, je sais pas
là-dessus.
Le temps qu'on a encore, mais...
On a encore juste le temps de clôturer.
Eh bah, faisons ça, alors.
la place de l'impro, qui est en quelques mots, du coup. Pourquoi est-ce important de laisser cette impro?
Bah oui, moi je suis vraiment compositrice, donc j'aime passer du temps à triturer mes arrangements, travailler la matière musicale, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et en même temps, l'improvisation, c'est aussi une façon de redonner une voix à chacun des musiciens et des musiciennes, surtout des musiciennes d'ailleurs dans ce projet, mais que chacun, chacune puisse amener sa propre culture, sa propre voix, et puis permettre aux morceaux qui partent un peu ailleurs. Et y a ce côté spontané et de création dans l'instant qui est aussi super intéressant.
Eh ben, je vous remercie. Je vous remercie. Désolée pour cette fin abrupte. Merci d'avoir été avec là ce soir.
Je parle trop, c'est pour ça.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et Félix, je te rends la main.
Merci beaucoup. Mejiro est à découvrir sur toutes les plateformes. Les prochaines dates pour toi, Elinoa, c'est le 9 janvier au Nocturne de l'Aude à Paris et le 10 janvier à la Maison de la Radio France. Il est 19h37 sur Radio Campus Paris. Nouvelle pause musicale avec justement le titre Natsu no Ame de toi.
Merci.
On écoute ça. C'était Natsu Noame d'Elinoa. Place à Arthur qui va nous révéler comment il a découvert qu'il était parisien dans sa chronique libre.
La matinale de 19h.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Arthur Avix, je viens de Grenoble, mais je vis à Paris depuis 5 ans. Et jusque-là, j'étais persuadé d'être devenu un Parisien. Parce que je remplis toutes les conditions nécessaires. Je me plains en permanence. Si quelque chose va pas, je dis que c'est la faute d'Hidalgo. Quand j'attends un métro plus de 3 minutes, je pars du principe que la RATP est en grève. Si je dois traverser le périph', j'ai l'impression que je vais à la campagne. Et je hurle sur les voitures quand je suis en Vélib', alors que je suis en terre, en tort. Donc vraiment, je suis un modèle d'intégration. J'ai complètement oublié d'où je viens. Donc ça fait 5 ans que je suis vraiment persuadé d'être parisien. 5 ans que je suis certain de faire partie de ce groupement d'êtres humains imblairables. Alors que ça fait 5 ans que je me trompe. 5 ans que je me mens à moi-même. Parce qu'en réalité, je suis vraiment devenu parisien il y a 2 semaines. Puisque j'ai participé à un atelier de peinture sur céramique en dégustant du vin. Oui, je l'ai fait. Il n'y a pas plus parisien que ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? À la limite, adopter un teckel et me balader avec lui en Chelsea boot en portant un tote bag de la mairie de Paris. Peut-être, mais au-delà de ça, il n'y a rien. Donc pendant 3 heures, un mardi soir, dans le 15e, je me suis retrouvé à peindre de la céramique en me dégommant au vin bio. Et j'ai kiffé. Parce que tout est réuni pour que tu kiffes. Quand tu arrives dans l'atelier, qui a tout d'un bar, hein, c'est juste que sur les tables, on a foutu des pots avec des pinceaux, donc on appelle ça un atelier, mais à part ça, c'est un débit de boisson. On te propose de choisir quel objet tu veux peindre. Et je vais te dire, c'est là qu'on réalise qu'on n'y connaît rien en céramique. Parce qu'il y a un nombre d'objets céramicables, mais tu pètes un câble. Moi, je suis arrivé avec des ambitions toutes modestes. Je me suis dit, je vais peindre une assiette à la con, ce sera très bien. Mais là, quand tu te retrouves devant cette immense bibliothèque, où tu vois des saladiers, des gamelles pour chiens, des cache-pots, des soliflores. Mais il faut déjà savoir ce que c'est qu'un soliflore. Non, là, t'es pris d'un éclair de génie et tu te dis, putain, le monde entier est céramicable. Et une fois que tu as choisi l'objet que tu veux peindre et qui va encombrer ton salon pendant 6 mois, l'atelier commence. Une vingtaine de Parisiens et de Parisiennes qui s'assoient ensemble et qui veulent s'extraire de leur quotidien pour se réunir autour d'une activité commune qui rime avec gros délire, enjaillement au max, pétage de crâne, mon pote ! La peinture sur céramique. Et là, c'est la régalade. Tu peins des trucs qui n'ont aucun sens sur les objets du quotidien. Tu te rends même pas compte des couleurs parce que le truc va passer au four ensuite, donc ça va tout raviver. Au bout d'une heure, t'es déjà pompette. Et à la moitié de l'atelier, tu te rends compte que tu vas pas réussir à faire tout ce que tu voulais et qu'il va falloir expliquer à tes proches pourquoi il n'y a que la moitié de la céramique qui est peinte. Tout ça en chuchotant et en écoutant du Olivia Ruiz. Parce que ce petit atelier after work, il est là pour nous faire souffler, pour nous emmener ailleurs, pour nous envelopper dans du coton avant de retourner dans le bruit et la froideur parisienne. Et tu vois, quand l'atelier s'est terminé, qu'on s'est toutes et tous levés pour mettre nos créations dans un four, en se félicitant et en se disant que mine de rien, l'album La Femme en chocolat d'Olivia Ruiz, c'est vraiment pas si mal, j'ai compris ce que c'était que de vivre à Paris. En fait, être parisien, c'est se lever tôt pour essayer de pas avoir un métro bondé, passer sa journée à éviter la pluie, faire un plein de courses trop cher pour une semaine, rentrer chez soi, se demander ce qu'on fout là et se dire que finalement, la vie n'est pas si mal en regardant un soliflore en céramique à moitié peint.
Merci Arthur pour ce Parisien mode d'emploi. Il est 19h47, on s'écoute Koala de Maria Cara Argiro avant la dernière chronique libre d'Abel.
Yeah.
C'était Koala de Maria Chiara Argyro. Et maintenant, Abel va nous parler des aventures de Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Vous avez dû le voir et l'entendre, mais Nicolas Sarkozy est sorti de prison après 20 jours d'incarcération. Une nouvelle on ne peut plus banale dans la France de Macron, mais ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui est d'un croustillant. Car ici, vous trouverez ce que les médias mainstream ne vous donnent pas. La lettre d'amour de Nico à Gérald Darmanin. Chers auditeurs, chères auditrices, accrochez vos cœurs car c'est bouleversant.
Hâte d'entendre ça.
Mon doux Gégé, ta visite a rempli mon cœur d'une passion dévorante. Mais laisse ma peau plus froide qu'elle ne l'était dans les geôles de cette république corrompue et injuste. Aujourd'hui, j'ai chanté « Libéré, délivré » de la Reine des Neiges sous la douche et lu à voix haute « Les Misérables » de Victor Hugo, à travers les barreaux accusateurs de ma cage. J'essaye de passer un message, j'espère que c'est subtil. Demain, je sonnerai 33 fois les gardiens en référence à l'âge de la mort du Christ. C'est terrible ici, la nourriture est infecte, je ne me nourris que de yaourt. C'est la seule nourriture de mangeable. Je soupçonne cependant les vaches de ne pas être entièrement françaises. Tu te rends compte, moi, manger des yaourts immigrés, quelle indignité. Ces quatre murs ne me retiendront pas, mon cher et tendre, je ne suis pas bâti pour croupir ici. J'ai croisé d'autres détenus, ils ont l'air féroces. Heureusement que la villégiature républicaine existe. J'en ai même entendu un parler mal de la France, j'étais scandalisé. Heureusement, mes enfants sont là pour me soutenir. Louis m'a envoyé un dessin de Marc Aurèle à cheval avec des mangues que je n'ai pas trop compris. J'ai peur qu'il continue à se faire ces horribles dessins sur le corps que l'on appelle tatouage. Tant pis, je le nettoierai au Karcher à ma sortie. Depuis quelque temps, il ne fait que des bêtises. Et ma pauvre Julia qui continue de me défendre sur Tok Tok. Vraiment bouleversant, mais particulièrement inutile. Surtout qu'elle dit n'importe quoi. Car elle continue d'être un soutien sans faille, mais ne comprend pas que mon cœur lui a déjà échappé. Mais il suffit de parler de ma lignée. Car dans ces murs froids, le silence ne me parle que de toi. Je repense à nos discussions passionnées. Toi, debout, l'œil ardent, parlant de la France comme d'une amante fidèle. Moi, te regardant avec ce mélange de fierté et d'inquiétude que seul un mentor épris peut comprendre. Chaque soir, ma cellule se ferme avec un fracas métallique. Ce bruit me transperce, mais aussitôt ton nom me réchauffe. Darmanin. Trois syllabes de loyauté, de fougue et de promesses. Maintenant, je n'ai plus que tes discours à la radio. Tes interviews du matin, ta voix qui traverse les barreaux de ma cellule pour me dire « Tiens bon, Nicolas, la République n'oublie jamais ses héros ». Tu as pris le ministère comme on prend une forteresse, sans peur, sans remords, sans hésiter. Je te regarde ici comme on contemple son héritier spirituel et parfois, pardonne ma faiblesse, je t'imagine revenir me rendre visite, apportant avec toi un dossier, un sourire et entre deux phrases sur la sécurité, un regard un peu trop tendre. J'ai parlé à l'arrogant Macaron, cette mascarade ne durera plus longtemps. Je n'ai plus d'ambition, seulement un espoir qu'un jour, lorsque l'histoire parlera de moi, elle prononce ton nom juste après le mien. J'ai tout de même commencé l'écriture d'un livre sur ces 20 horribles journées de martyrs. Nicolas Sarkozy, genèse d'une justice injuste. Mais si le destin m'a enfermé, c'est sans doute pour mieux me faire comprendre ceci, on ne conquiert pas la République sans y laisser un morceau de cœur. Mon Gérald, mon garde des Sceaux, la justice de ton ministère m'a injustement puni, mais toi seul pèseras la culpabilité de mon cœur, Nicolas, détenu, mais libre de toi. Si vous n'y croyez pas, tant pis pour vous, mais c'était Abel et bonne soirée. Merci Félix.
Merci pour ces révélations croustillantes et émouvantes. La matinale de 19h, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre fidélité. Merci à Elinoa et Lula Mathieu des Livres en Tête, nos invités de ce soir. C'était Rania et Farah pour les Zooms, Tom pour la chronique Actu, Abel et Arthur pour les chroniques libres. Merci à eux. On revient demain à 19h sur radiocampusparis.org ou sur le 93.9 FM. À suivre, c'est le monde zygomatique et leur non-invité Bruno Le Maire. Vous pouvez réécouter cette matinale et nos autres émissions en podcast sur le site et nous suivre sur Instagram. C'était Félix à l'animation. Bonne soirée à vous.